Terre, c'était vu sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
France Inter,
première radio de France.
Vous êtes bien sur Inter et il est midi. Timur Sürk pour vous informer.
Glucksmann, casse-toi, synthé n'est pas à toi. Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS Place Publique aux élections européennes, expulsé du cortège du 1er mai à Saint-Étienne par une cinquantaine de manifestants. L'eurodéputé visé par des G2 remplis de peinture verte. Ce n'est pas notre conception du débat démocratique, regrette Raphaël Glucksmann. 265 rassemblements en France aujourd'hui pour la Journée internationale des travailleurs et moins de monde que l'année dernière en pleine réforme des retraites. À Marseille, la manifestation s'était lancée à 10h ce matin. Seulement quelques centaines de personnes rassemblées sous la pluie. On est loin de la foule de l'an dernier avec ses 130 000 personnes selon la CGT, 11 000 selon la préfecture. Mais pour Samy, sexagénaire marseillais des quartiers nord qui n'a quasiment jamais raté le 1er mai, il fallait être là.
Il y a une question de tradition. 1er mai... Il faut se rappeler que les gens ont payé cher pour avoir juste le droit de manifester, y compris avec des émeutes, des barricades, des morts. Donc, il y a un aspect traditionnel. Et puis à chaque fois, comme le monde bouge, à chaque 1er mai, il y a des thèmes particuliers qui sont dans la manifestation. Là, pour moi, il y en a deux principaux. C'est la poursuite internationale de la montée de l'extrême droite, qui est extrêmement, extrêmement inquiétante. Puis la deuxième chose, c'est que dans tout ce climat-là, les éléments de guerre qu'on croyait pas vraiment oubliés, elle n'a jamais arrêté, mais pas à ce point. Donc ça fait beaucoup de raisons pour être présent. Donc soit il y a cette unité générale, soit on laisse le monde se déliter.
Samy, un manifestant marseillais au micro de Maya Baldouro-Fredon, invité du 13-14 de Jérôme Cadet tout à l'heure en ce 1er mai. Nessim Chikawi, réalisateur du film Petite Main, en salle aujourd'hui. Film sur la grève des femmes de chambre de l'Ibis Bagnolet à Paris de juillet 2019 à mai 2021. Également en studio, Sylvie Kimissa-Esper, femme de chambre qui a participé à la grève. Comme chaque année, en Turquie, 1er mai, réprimé déjà des dizaines d'interpellations de manifestants qui tentaient de rejoindre l'emblématique place Taksim à Istanbul où les rassemblements sont interdits. 42 000 policiers déployés pour empêcher tout cortège. Le gouvernement parle d'organisations terroristes qui veulent faire du 1er mai un champ d'action et de propagande. Aux États-Unis, scène de violence sur le campus de l'université UCLA à Los Angeles. Jet de projectiles, coups de bâton, tirs de feu d'artifice entre étudiants pro-palestiniens et manifestants pro-israéliens. La police intervient à New York aussi. L'université Columbia, épicentre de ce mouvement anti-guerre, évacué par la police anti-émeute la nuit dernière. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, condamne fermement les violences des forces de l'ordre en Géorgie, dans le Caucase, et appelle les autorités locales à garantir le droit de réunion pacifique. Une soixantaine de manifestants arrêtés la nuit dernière à Tbilissi. Manifestation pro-européenne massive contre le projet de loi du gouvernement sur les agents de l'étranger. Une manière de museler l'opposition comme en Russie pour les protestataires qui ont dressé des barricades. Plusieurs journalistes et un député blessés par les coups de matraque de la police. Un homme tellement immense. L'éditrice et ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen a rendu hommage ce matin à son ami Paul Auster sur France Inter. L'écrivain new-yorkais mort à l'âge de 77 ans d'un cancer du poumon. Auteur d'une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues. Il avait vécu quelques années à Paris dans les années 70 et parlait français. Malgré sa maladie, il a achevé un dernier livre, Baumgartner, publié en mars. Écoutez Françoise Nyssen, son éditrice et amie.
C'est un véritable coup de cœur pour moi. Ça raconte les méandres de la mémoire d'un vieux professeur de mon âge qui a perdu sa femme, comme moi j'ai perdu mon mari. Et donc, il parle du deuil avec cette émotion qui est nécessaire hein, quand on est dans ce genre de situation. On a besoin de livres qui évoquent ça. Mais lui, il fait toute une évocation de la vie, de sa vie, de la création. Et c'est fascinant. Et pour ceux qui aiment Paul Auster, ils vont retrouver plein de signes, même du voyage d'Anna Blum, de Cité de Verre, de tout ce que vous voulez. C'est dans une narration qui ne vous vous lâche pas. Et c'est ça le miracle Paul Auster. Jamais de mots inutiles, jamais de phrases trop longues, toujours une pensée tellement intelligente et tellement imagée comme on ne l'attendait pas. Quand je vous parle de Paul, je l'entends. Il avait une façon de dire les choses qui était époustouflante. C'est un homme tellement immense qu'il faut le dire et le redire et le faire savoir et le faire lire, absolument.
Françoise Nyssen, interrogée par Sonia De Villers.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter, midi 5, suite de la bande originale avec Nagui.
Merci Timur Özturk. À 13h, le journal de la rédaction, évidemment. Et puis, travailleurs parmi les travailleurs de ce 1er mai, Timur reviendra toute l'après-midi pour vous informer. À tout à l'heure. La bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel
bonjour.
Morin,
bonjour.
Toute l'équipe. Et aujourd'hui, un invité de marque.
Oui, c'est Raphaël.
Ça existe toujours, Taratata.
Oh.
Bonne manne. Babysitter. Vas-y, dis-moi Alexandre, tu l'as vécu la situation de la babysitter?
Le fils s'appelle Alyosha.
Ouais.
Mais non, parce que je pensais à Alyosha, le chanteur.
Alyosha Schneider.
Ouais. Voilà. Il avait une petite voix pour Alyosha Schneider.
Ouais,
ah
ouais.
Oui.
Non, tu sais que c'est un peu lié. Alyosha Schneider, il habite juste en dessous de chez moi. On est vraiment voisins.
De palier.
Ouais, de palier, voilà, exactement, de palier. Donc il y a deux Alyosha, un au 7e et un au 6e. Mon fils dit toujours, je suis le vrai Alyosha.
Et il a raison.
Et c'est un petit peu...
Il s'est pas vendu à la SNCF.
Non, et c'est un petit peu grâce à Alyosha Schneider, que mon fils s'appelle Alyosha. J'avais fait un concert au Québec il y a une dizaine d'années. Et le frère d'Alyosha, Nils, était venu me voir en concert avec son petit frère, Alyosha. Ils étaient tous très jeunes, quoi. Bon. Et puis ensuite, le lendemain, on avait déjeuné ensemble, on s'était baladé. Puis j'étais rentré, j'avais dit à Mélanie, c'est quand même un beau prénom, Alyosha. Parce que c'est vrai que c'est des beaux mecs, charmants, adorables et tout,
c'est
doués.
Rare, ouais. C'est rare aussi comme prénom.
C'est rare, ouais, ouais. Bien sûr. Bah, c'est pas un vrai prénom en fait, c'est un surnom, donc c'est vrai que c'est très rare.
Je savais pas,
c'est un petit, c'est comme si.
Comme Babouchka,
voilà,
enfin, c'est ça.
C'est un peu ça, c'est les diminutifs. Donc si vous dites ça à des gens de l'Est, ils disent mais pourquoi, c'est comme si t'avais appelé Choupinet, quoi. C'est très bizarre. c'est curieux, mais bon.
C'est moins sexy,
Choupinet. Moi, je trouve ça très beau. Et puis c'est
évidemment
des personnages de roman. Puis c'est espiègle, on dirait un chat, quoi. C'est très, j'aime bien.
J'en ai toujours les larmes aux yeux. J'ai la nostalgie de nous.
Quand tu auras le remix de David Guetta, ça va faire un carton.
Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Je prends.
Raphaël est notre invité pour parler de ce nouvel album, de ses mélodies et de ses textes. Mais d'abord, voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Ah. Bon, les amis, vous le savez, j'ai énormément de qualités.
Oui.
Mais le public a besoin de se projeter. Je ne peux pas laisser Paul Mirabel ou Redouane Bougueraba prendre tout le cake et me contenter des miettes. Hein, donc j'ai clairement l'âge pour les palaces et les berlines de luxe. Électrique, hein. On est sur Inter, ne pas se fâcher avec l'auditoire. Même les palaces, électriques, tout électrique. Moi, je ne parle plus à qui que ce soit qui n'a pas une prise dans le cul. Donc, mais j'ai aussi un défaut, voilà, je suis naïf. C'est dû à ma qualité 57 et à ma qualité 123, qui sont la gentillesse et l'ouverture d'esprit. J'ai tendance à croire ce qu'on me dit. Donc dans la vraie vie, ça va, parce qu'au pire, Daniel Morin, pour m'attirer dans son bureau, va me dire qu'il a des chouquettes. Et c'est que quand il a fermé la porte que je vois les autres gens attachés, avec des pinces crocodiles sur les tétons. Mais sur Internet, je me fais avoir comme un bleu. Vous vous souvenez, en juin dernier, quand j'avais acheté sur le net une substance soi-disant proche du CBD,
oui. Ah, oui.
Aux propriétés,
oui,
relaxantes, et que j'ai fini aux urgences parce que je voyais des licornes? Et ben voilà, je peux pas concevoir que des gens vendent des produits néfastes. La fois aux portes de Saint-Ouen, j'ai cru acheter de la farine à ce jeune en scooter, où j'ai fait une tourte pour la fête des voisins. Sur 4 jours, personne n'a dormi dans l'immeuble. Ma concierge, elle lavait ses vitres avec sa face en hurlant, quoi. Même principe, je sais plus quand, lundi je crois, parce que j'étais fatigué par la semaine, comme le mardi, le mercredi et les autres jours. Bon. J'étais sur X, le réseau d'Elon Musk où des complotistes discutent avec des nazis. Et là je vois une pub, parce que j'ai pas pris la version premium qui compte contre, de l'argent permet de les supprimer. Hein, en fait, sur Internet, je vois surtout des pubs. J'ai appris seulement hier la mort de Jacques Chirac, parce que depuis 4 ans, je suis devant des pubs pour les mentales. J'ai vu tellement de trous qu'on dirait le CV de Philippe Douste-Blazy. Et bon, le choc, sur cette pub X, on voit Élise Lucet de France 2, le visage tuméfié comme si elle venait de faire un combat de MMA contre Benoît Saint-Denis. Et à côté, une fausse une du Monde avec écrit « La prestation d'Élise Lucet s'est terminée en tragédie ». Je me dis, un patron du CAC 40 qu'elle a poursuivi un jour dans la rue a dû la reconnaître depuis le ciel et a craché son jet privé sur son visage en criant « Tout ça avec nos impôts ». Curieux, je clique. Je connais bien Élise Lucet, on l'a reçue ici. Bon, par contre, elle doit pas se souvenir de moi. C'est ça les stars. Hein, on croise leur route et paf, elle nous oublie, alors que nous, le soir à table, on dit « J'ai rencontré Raphaël ». La personne en face dit « C'est lui qui est charismatique, romantique et qui chante bien ?» On répond « Oui, bon, bah, ça va ta gueule, quoi. Hein ». Parce que pour l'équilibre de nos relations à tous, je milite pour qu'on n'ait plus que des invités vieux, moches et cons. C'est quand même pas ce qui manque.
Non, c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Bref, je suis inquiet pour Élise Lucet, parce que sous cette carapace de guerrière se cache sans doute une âme de bébé hérisson. Et en fait, le lien mène à une interview d'Élise Lucet où elle explique même pas le cocard qu'elle a sous l'œil. On se dit, quelle pudeur, quoi. On pense à des pensifs, comme les femmes, elles connaissent bien les douleurs de l'accouchement, donc tu penses bien qu'ensuite, même si tu leur coupes un bras, elles ont rien à foutre. Et à la lecture de l'interview, on réalise qu'en fait, Élise Lucet conseille d'investir dans une plateforme de trading de crypto-monnaie. C'est là que j'ai lâché. Hein, j'ai déjà du mal à compter les sachets de farine que mon ami pâtissier de la Porte de Saint-Ouen me demande d'aller récupérer à Rotterdam, hein, puisqu'il doit être affilié avec Top Chef. C'est pas pour me lancer dans le virtuel. Alors bien sûr, parce que vous êtes plus vif d'esprit que moi et qu'au fond, je ne vous mérite pas, à part une personne qui ici est encore plus conne. Donc vous aurez compris que c'est une arnaque. Et des pubs avec Élise Lucet, j'ai dû en voir 500 cette semaine. En plus, c'est pas la seule, il y a eu des fausses pubs avec Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Oh. Attention, Leïla, ça se rapproche. Ça sent la grosse présence sur X d'ici 2-3 jours. En plus, si c'est une pub pour le trading, l'auditeur un peu à gauche de France Inter, parce qu'on a les 20 derniers, va te prendre en grippe. Hein, c'est une fin de carrière. Étape par laquelle sont déjà passés Faudel, Michel Noir et les gens qui ont fait la dernière photo en date de Kate Middleton. Donc ça, c'est pour Lucet. Et depuis, ça part dans tous les sens. Faut vraiment que les gars de Poutine, pas le RN, hein, les vrais Russes, coupent le cap de la fibre, parce que le web, c'est devenu une vaste poubelle. Depuis, il y a eu la même chose avec Jamel Debbouze. Fausse couve du Monde avec écrit « La Banque de France poursuit Jamel pour ses propos tenus sur une radio en direct » avec une illustration de Jamel en interview mais sur RFM, radio où aucun propos choquant n'a jamais été tenu. La fois où Gérald de Palmas a dit que la veille au soir il avait bu une tourtelle, ça a été le moment le plus punk de l'histoire de RFM. Hein. Donc là, j'ai pas cliqué, c'était trop gros. Pas plus que quand j'ai vu une pub avec Francis Cabrel. Il y en a une. Oui, Cabrel, le type qui donne le moins envie d'acheter quelque chose. Ou alors du terreau pour planter le sous-bois à côté de la maison. Et je veux dire, il est plus pépère qu'un pull d'amarre. Et quand vous cliquez, ça vous renvoie aussi à de la crypto-monnaie. Cabrel et Bitcoin, l'association la plus improbable de l'histoire.
Carrément.
C'est comme si en cliquant sur une photo de Clara Luciani, ça vous renvoyait sur la billetterie du Hellfest. Alors, pardon Nagui, je suis pas publicitaire, mais il faut que le produit corresponde un peu à la personne.
D'accord.
Voilà, Charal, ils vont pas caster Émeric Caron. Et le problème, c'est que globalement, les gens sont comme moi, naïfs. Vous faites un sondage, là, actuellement, je pense que 70% des Français pensent qu'Élise Lucet s'est fait taper à coups de baramine alors qu'elle sortait de sa Ferrari 296 GTS qu'elle a achetée grâce à ses investissements dans les crypto-monnaies. La Ferrari 296 GTS, tu vois laquelle c'est, Camille? Ah bah non, c'est vrai, tu fais qu'une chronique par semaine. Lisa, oui, ok, voilà, ok, on est bon. Hein, bon, bref, fin de l'histoire. France Télé a porté plainte pour Élise Lucet et Francis Cabrel a déclaré les cryptos quoi.
Merci, Tanguy. Oh, la balle perdue que t'as chopée. Oh,
mais je dis que pas d'argent, c'est un soutien. Un soutien moral et financier.
On se retrouve après les Black Keys, Beautiful People sur Inter.
begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
Beautiful People des Black Keys dans la bande originale sur Inter. Raphaël, en tournée donc annoncée en tout cas pour ce mois de juin, il y a quelques dates, le 8 juin à Saint-Denis-de-Pile, le 29 juin à Malemort, Riom le 31 juillet, le 14 septembre à Clamart, j'imagine qu'il y a une date parisienne qui va être prévue. Est-ce que sur scène il y a obligatoirement, ouais, comme l'hymne, comme le la manière de dire, ok, allez. Vous aussi, vous aimez cette chanson. Elle est, c'est pas saoulant pour un artiste de chanter ces tubes.
Ben non, franchement, ça va. Moi, j'adore ces chansons. C'est vrai que les
certains
chansons...
artistes refusent. Hein.
Ouais, c'est vrai, mais pas beaucoup. Hein. Vraiment, même moi, j'ai été voir Lou Reed, qui était quand même le plus relou de tous, quoi. Et il jouait quand même son Walk on the Wild Side à la fin. Et je l'ai vu peut-être 5 fois en concert, pas une seule fois.
Il
se mettait de dos, il arrivait en jogging, voilà. Il faisait un peu chier,
c'est ça.
Mais il le faisait quand même, quoi. Il ouais. Y a guère que Bob Dylan qui peut de temps en temps. Il a tellement de tubes et tellement de chansons importantes qu'il peut se permettre de pas faire son Knocking on Heaven's Door, je sais pas quoi, ça je crois qu'il le fait rarement ou plus.
Non, mais le public est pas toujours content.
Le public est pas toujours content, non.
C'est bizarre en même temps. D'avoir été aimé pour quelque chose et de ne pas le rendre en retour. C'est comme les gens qui n'aiment plus qu'on leur parle de quelque chose de leur époque, qui leur a permis de devenir connu en disant ah bah non, mais parlez plus de ça. Bah,
ouais, après, Dylan, c'est Dylan. Dylan, il fait toujours ce qu'on attend qu'il ne fasse pas.
Voilà, oui, c'est ça.
Comme ça.
Moi,
c'est
j'adore
ça,
ton
c'est
idée de signature.
T'es gentil.
À quel moment on se dit qu'une mélodie, lorsqu'on compose un album, est la mélodie, la bonne mélodie? Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des opinions extérieures?
Un peu quand même, on a besoin d'avoir des opinions extérieures. Moi je travaille souvent avec les réalisateurs de l'album, quoi. Je leur fais vraiment confiance, plus qu'avec les copains ou la famille, où là ils me connaissent trop. C'est bien d'être avec des gens qui vous connaissent moins bien, quoi, je trouve. Et ensuite on le sent quand même. Moi je sens quand il y a une mélodie qui est particulière, qui a une ligne claire, par exemple cette mélodie sur l'espoir, moi je sentais qu'elle avait quelque chose d'un peu magique, qui me plaisait, quoi, voilà.
Ah non mais elle est tellement forte.
Merci, ouais,
tellement
moi,
forte.
Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Et j'ai parfois, il y a un truc très simple en fait, on a l'impression que ça a existé parce que c'est très simple. Voilà,
c'est le sentiment qu'avait eu Paul McCartney en composant Yesterday. Il s'est dit,
je l'ai piqué, vous, quoi.
Ouais, exactement. j'ai dû l'entendre à la radio quelque part. Il y a la mélodie, c'est une chose. Après, il y a les arrangements. Est-ce qu'on le fait avec des chœurs extrêmement doux? Est-ce qu'on fait avec des envolées? Est-ce qu'on rajoute une batterie? Est-ce que ça peut venir dénaturer une mélodie ou au contraire la pimper?
Ouais, bien sûr. Il y a tellement d'arrangements possibles. Une chanson, quand on parlait de Caravane tout à l'heure, j'ai joué de 100 manières différentes, quoi. Je peux faire des arrangements très blues, très rock, je peux la jouer piano-voix dans des manières complètement déstructurées.
C'est peut-être ça la définition d'une bonne chanson, on peut la jouer de toutes les manières
exactement.
Possibles.
Exactement, ouais. Peut-être, quoi. C'est des belles mélodies qui portent des tas d'arrangements. Après, moi en studio, j'aime bien essayer de faire des... Alors celle-là, L'Espoir, c'est une forme très classique, c'est une balade folk. Mais sinon, sur l'album, il y a quand même beaucoup de chansons où j'essaye de faire une production qu'on n'aurait pas pu faire il y a 5 ans ou 10 ans, ou d'inventer des trucs que j'ai pas encore entendus dans la chanson française.
Une réussite en tout cas, ce nouvel album.
Merci.
Signé Raphaël. D'autres événements culturels?
Oui. On cherche un réalisateur. Son dernier film relate l'épopée du cinéma hollywoodien en passant de, en mettant en scène le passage du cinéma muet au cinéma parlant.
Chazelle.
Babylone, bravo, Babylone, absolument, c'est Damien Chazelle, absolument, qui a aussi réalisé Whiplash, La La Land, à chaque fois c'est Justin Hurwitz qui signe la musique. Eh bien, Babylone a connu un échec commercial parce que le budget était de 80 millions d'euros, de dollars, pardon, il n'en a rapporté que 63 millions. Il y a un gros trou dans la caisse, ce qui fait que le financement de son prochain film est assez compromis, en réalité, on peine à le croire ici, hein, je pense, Babylone a été bien reçu, mais c'était pas vraiment le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez signé aussi une très belle bande originale pour Soudain Seul de Thomas Bidguin. C'est une aventure à part qui sort vraiment complètement des clous. Comment est-ce qu'on affronte ça ? Comment on se sent à son endroit, au bon endroit pour faire une bande originale de film ?
Déjà, c'était une histoire d'amitié avec le réalisateur, avec Thomas Bidguin. J'avais fait son film d'avant, j'ai fait des musiques pour Samuel Benchetrit. C'est à chaque fois vraiment des amis très proches, quoi.
Un film où sa femme joue aussi.
Mais je savais pas. C'était pas prévu. Au début, il devait faire son film avec Jack Gyllenhaal et Vanessa Kirby. Donc c'était je mettais le pied dans Hollywood. J'étais très content. Et puis ça s'est pas exactement passé comme ça.
Il manquait 17 millions.
Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et puis
a convaincu Mélanie Thierry en disant c'est Raphaël qui va faire la musique, viens jouer dans mon
film. Non, on est copains, on se connaît, se connaît vraiment, on part en vacances ensemble avec Thomas Bidguin, c'est vraiment un ami très proche. On s'adore, quoi. On s'adore. Et donc oui, j'avais pas prévu de faire une musique. C'est vrai que cette chanson, Une autre vie, ça vient un peu de là, peut-être, sûrement. Mais c'est très beau. Et puis après, le travail sur une musique de film, c'est merveilleux. Et je trouve que souvent les chanteurs ou les musiciens comme ça de variété ou de, je sais pas comment on dit, enfin les chanteurs, auteurs-compositeurs, ils ont une approche très particulière et vachement intéressante de la musique de film. Peut-être le Johnny Greenwood, par exemple, qui est le guitariste de Radiohead. C'est celui qui fait les plus belles BO de films que je connaisse, quoi. Il y en a un autre qui s'appelle Alex Ebert, il y a plein de chanteurs qui font vraiment des trucs super et ils ont pas les réflexes des orchestrateurs qui sont les immenses compositeurs, voilà. Je sais pas, des Gabriel Yared ou des Desplat et tout.
Mais vous travaillez comment alors, sur l'image que vous voyez ou sur simplement un texte, une intention, une humeur que l'on vous propose?
Eh ben moi, souvent je travaille sur le scénario d'abord, je fais plein de trucs et puis rien ne marche. Une fois que le film est tourné, on se dit oulala, ça va pas du tout et donc on recommence tout à zéro. Mais ça, les réalisateurs aiment bien avoir déjà quand ils vont tourner un truc à se mettre dans le casque et ensuite c'est vraiment c'est ce qui marche, quoi. Donc il faut essayer.
Mathieu Chédid, lui, il se met devant l'écran, il regarde les images, et il compose.
À la Michel Legrand, ouais.
À la main levée, la guitare.
C'est un truc pour les guitaristes, c'est plus. Pour les guitaristes, si on fait des arrangements de cordes et qu'on écrit des arrangements pour un orchestre, on peut pas faire ça, quoi. Après, c'est vrai que c'était aussi la légende de Neil Young sur Dead Man qui a fait cette musique sublime, là, comme ça. Et je le crois volontiers parce que il a dû dire, je pense que Jarmusch lui a demandé 700 fois, s'il te plaît, fais la musique de mon film. Il n'y a rien à foutre de Hollywood parce qu'il est comme ça, Neil Young, quoi. Il faut bien qu'il. C'est Neil Young, quoi. Il a le droit. C'est comme Dylan. C'est ce qu'on attend de lui, quoi. Il a son film troué. Il dit Hollywood. Non, c'est tous des pourris. Et puis, à un moment donné, à la 70e demande, Jarmusch vient avec le film. Il joue. Il fait, attends, je branche la guitare. Et là, il fait ce truc inoubliable et déchirant qui est la musique de Dead Man. Donc, je le crois. Mais pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus de travail. C'est 6 mois de travail pour faire la musique de film.
Autre question, on cherche une série qui devrait faire son grand retour, série diffusée pour la première fois aux États-Unis entre 1989 et 1999.
La petite maison dans la prairie.
145 pays y ont eu droit.
Madame est servie.
Avec sans doute toujours pas les acteurs du début, même si réendosser le costume semble leur poser un petit problème.
C'est pas Friends.
Marier
deux enfants.
C'est à base de deux David.
Deux David.
Et beaucoup de sable.
Alerte à Malibu.
David Charvet, David Hasselhoff, Pamela Anderson, je vous ai pas donné Pamela, c'était trop facile. Alerte à Malibu, qui devrait faire son retour pour une 5e saison, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer avec ça?
C'est plus la peine de mettre le ralenti, laisse courir en cours de vrai.
Alors, les acteurs dits principaux n'ont pas encore complètement confirmé, voilà, estimant qu'il va falloir faire des vrais aménagements dans le scénario.
Ils reprennent les mêmes acteurs.
Les mêmes.
Ils espèrent. Ils n'ont pas encore validé.
C'est pas mal, je trouve. C'est comme Karate Kid, là, qui ont fait la suite, c'est délicieux, c'est merveilleux.
Alors justement,
j'adore.
Qu'est-ce que vous aimez de ce type-là
Ça, j'adore. Moi, j'adore tous ces. J'avais adoré ce film Match Retour là, avec Stallone et De Niro. Là, c'était délicieux, quoi. J'adore les mecs qui reprennent les gants à 45 ans et qui se rentraînent. C'est délicieux. J'adore. À 45 ans après, quoi.
Bien sûr. Parce que je vous imaginais pas vous abrutir forcément devant.
Il s'est mis à la boxe.
J'en fais plus. J'en ai fait à une époque, mais j'aime bien m'abrutir aussi. Si. Je m'abrutis très souvent, mais enfin, j'ai pas beaucoup de séries. conseille, quoi. Mais de temps en temps, quand on me conseille, il y en a une, par exemple, que j'adorais, c'est un mec que vous devez connaître, qui s'appelle Larry David, avec Curb Your Enthusiasm. Ça, c'est vraiment, c'est, si j'ai un truc de mélancolie, je mets un disque d'Iggy Pop ou je regarde un truc de Larry David.
C'est très, très drôle.
C'est irrésistible.
Ouais, on s'abrutit pas assez,
c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux.
Oui, ça, c'est pas vraiment un truc bas de gamme.
Et c'est un peu la mauvaise foi, là, ce dont vous parlez, mentir, tricher, puis disparaître. C'est un peu ça. Chaque épisode, c'est ça, quoi. Il commence par une petite, un petit truc un peu dégueulasse, un peu mesquin, et ça lui retombe sur la gueule, quoi. C'est irrésistible, j'adore. Là.
Quand on est musicien, est-ce qu'on se tient au courant forcément de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort ?
Bah, il y a tellement de choses qui sortent que c'est compliqué. Après, moi, quand je travaille sur un disque, par exemple, les réalisateurs, je leur demande de me faire écouter les trucs de leur époque. C'est vrai que souvent, aujourd'hui, il y a des choses générationnelles, et donc ils m'ont fait découvrir des trucs. Et c'est vrai qu'il y a des choses de son chez Billie Eilish, par exemple, ou chez Tyler, The Creator, qui sont fantastiques, quoi, qui sont vraiment très inspirantes pour un musicien.
Vous parlez plus du son, du, j'allais dire le bidouillage en studio des machines que de l'écriture des mélodies ou des textes.
C'est un peu indissociable. J'ai l'impression que c'est des chansons qui sont tellement produites que, après, les chansons de Billie Eilish, je pense qu'elles sont très bonnes, et les chansons de ce Tyler, The Creator aussi, je pense qu'on les jouerait, il les jouerait au piano ou je sais pas quoi. Enfin, ça déchire, quoi. C'est vraiment bien.
Sur cet album, justement, vous avez plus travaillé au piano qu'à la guitare.
Oui.
Vous évoluez vers cet instrument.
Moi, j'aime bien le piano. C'est vrai que c'est moins instinctif parce que j'ai l'impression que j'ai une guitare dans les mains depuis toujours. Donc, même si je me plante, je peux m'attraper facilement, quoi. Alors que le piano, et puis il y a 10 doigts le piano. Donc, s'il y en a un qui traîne, c'est la merde, quoi.
Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Oh. Raphaël, le nouvel album disponible avec 10 titres, quoi. Contrairement à ce que la maison disque prétend, et ça s'appelle Une autre vie, notamment avec L'espoir ou encore Heure sub. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà, désolé pour vous, Nagui, qui a découvert ce matin que Soudain Seul, le film avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, qui se passait sur un îlot perdu au milieu de la banquise, s'était tourné en Islande. Et pas en Thaïlande. Eh ouais, alors j'ai regardé. Hein. Il y a plus de 10 000 km entre Reykjavik et Bangkok et 42 degrés d'écart. Mais c'est vrai que c'est passé à ça. Bizarre. Désolé, calme-toi parce que je suis désolé pour toi, Léa, qui a découvert ce matin qu'on pouvait chanter sous Poppers. Eh ouais, ça sert pas que pour présenter les infos.
J'ai toujours su.
Désolé pour nos auditeurs, conducteurs de Smart, qui après avoir écouté la chanson Babysitter de Raphaël, ont des envies de sexe sur la banquette arrière. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup, j'en ai parlé à Lisa Del Moitié, son conseil, aller dans le coffre.
Merci Raphaël et bravo.
Merci beaucoup.
Bravo,
merci.
Bravo. Rendez-vous donc en concert pendant tout cet été à la rentrée, et puis sans doute une salle parisienne.
Oui. L'automne prochain, 2025, au Bouffe du Nord.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une belle journée.
Merci.
Si vous avez la chance de ne pas travailler.
Oui.
En tout cas. Merci Daniel, merci Leïla.
Merci à toi, et on se retrouve demain, bien sûr, au grand complet, heureusement, avec toute la bande.
C'est le meilleur premier mai de ma vie.
C'est vrai.
Mmh.
Et t'as aimé mon bras de midi? Tout de suite, les carnets de campagne, Dorothée Barba. Que se passe-t-il ce matin?
Une idée pour les jours fériés, les week-ends, les ponts. Et si vous participiez à un chantier nature? Les conservatoires d'espaces naturels ont besoin de bras bénévoles. A tout de suite.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques.
Écoutez, voici les coups de cœur musique de France Inter.
Yamé.
Bah ma gueule, c'est maintenant que tu captes. J'ai le miel d'une épaule. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, moula. Bah ouais.
The Smile. Clara Isé.
This is
Retrouvez la musique d'Inter dans toutes nos émissions et sur l'appli France Inter.
Il est midi et demi. L'heure des titres du 13-14. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Tout à l'heure dans le 13-14, nous rendons hommage au grand écrivain américain Paul Auster qui a disparu la nuit dernière à New York à l'âge de 77 ans. Reportage dans les rues de Paris où il avait ses habitudes. Et puis nous serons en ligne avec un invité un peu inattendu, c'est vrai, mais qui connaissait bien Paul Auster, qu'il avait accueilli à plusieurs reprises dans sa ville du Havre. C'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui sera avec nous. Bah oui, mais très grand connaisseur de Paul Auster. Il nous l'a confirmé quand on l'a eu au téléphone ce matin. C'est le 1er mai, ça ne vous a pas échappé. Des manifestations, défense des droits des salariés depuis ce matin un petit peu partout en France. Cortège singulier à Saint-Etienne où le candidat PS Place Publique pour les Européennes, Raphaël Glucksmann, était présent. Il a dû être exfiltré, pris à partie par quelques militants communistes. On vous racontera tout ça, l'entrée en campagne de Gabriel Attal. Aussi, aujourd'hui, à 13h30, nous invitons le réalisateur du film Les Petites Mains, qui sort aujourd'hui en salle, inspiré du combat des femmes de ménage de l'hôtel Ibis de Batignolles à Paris. C'était il y a quelques années. Combat victorieux, elles ont obtenu davantage de droits et l'une de ces femmes de chambre qui a mené le combat sera avec nous également à 13h30. Vous nous appelez 01 45 24 7000 pour vos témoignages et vos questions.
Merci Jérôme.
À tout à l'heure.
À l'heure, 13h.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont alsaciens ces jours-ci. Nous passons la semaine dans le département du Haut-Rhin, du côté de Colmar et Mulhouse. Et aujourd'hui, je donne la parole à une star virtuelle, un professeur des écoles qui sévit en ligne. Il s'appelle Maître Lucas. Il propose des vidéos gratuites pour les élèves du CP au CM2, utilisées aussi bien par les profs que par les parents. Et ça marche très fort. À l'heure où le temps d'écran est au cœur des préoccupations, peut-être peut-on s'interroger aussi sur le contenu. L'idée n'est pas d'en rajouter du temps d'écran, surtout pas, mais de subtilement remplacer, au moins en partie, le temps d'écran récréatif par un temps d'écran éducatif. Mais d'abord, remontons-nous les manches pour participer, pour venir en aide à la biodiversité. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Quoi de mieux pour tisser des liens avec les gens autour de chez soi ? Quoi de mieux pour protéger la biodiversité et se sentir utile, surtout face au dérèglement climatique ? Quoi de mieux pour comprendre les milieux naturels et ainsi avoir envie de mieux les protéger ? Des chantiers nature sont organisés un peu partout en France par les conservatoires d'espaces naturels. Celui d'Alsace est particulièrement actif. C'est d'ailleurs le premier à avoir été créé. Une association basée à Cernay, près de Mulhouse, qui achète, qui loue et qui gère des milieux naturels sensibles en Alsace afin de les protéger. Bonjour Luna Gelab.
Bonjour.
Coordinatrice de la vie associative et du bénévolat au sein de ce conservatoire. Alors, on a tendance à penser qu'il vaut mieux laisser la nature tranquille. Pourquoi avez-vous besoin du grand public sur ces chantiers participatifs ?
Alors effectivement, cela peut dépendre des milieux. Par exemple, dans les forêts que l'on gère, on est plutôt partisan de les laisser tranquilles, comme vous dites, et de laisser faire la libre évolution. Mais il y a aussi des espaces naturels qui deviennent de plus en plus rares. Et ce qui est important dans la biodiversité, ben, c'est le mot diversité. Donc si on laisse par exemple tous les milieux se refermer et être recouverts de friches ou de forêts, eh bien, il y a certains milieux typiques qui disparaissent et la biodiversité, que ce soit faune ou flore qu'ils abritent, disparaît aussi. Donc pour certains milieux, il est important de leur donner un coup de pouce, entre guillemets, pour maintenir certaines conditions qui permettent la présence d'une flore et d'une faune qui est typique ou qui est menacée.
Ces chantiers sont-ils accessibles à tout le monde ou est-ce qu'il faut des compétences botaniques, par exemple ?
Non, c'est absolument accessible à tout le monde. L'idée, c'est justement que tout le monde puisse s'impliquer concrètement sur un espace naturel. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences naturalistes et ni même physiques, puisque les tâches peuvent être très variées et les conservateurs bénévoles et les techniciens salariés qui sont présents s'adaptent aux participants et trouvent des activités à proposer à tout le monde.
Des exemples de tâches à accomplir ?
Oui, alors souvent, il s'agit de faucher et de ramasser le produit de fauche. Donc, par exemple, pour les pelouses sèches, il est important de faire une fauche qu'on appelle différenciée, c'est-à-dire qu'il faut faucher à des périodes bien précises de l'année pour favoriser une flore spécifique et, par exemple, les papillons qui lui sont associés. Donc là, il faut faucher l'herbe et puis l'exporter, c'est-à-dire l'enlever du site pour que cette herbe ne modifie pas les conditions du sol en restant. Donc il s'agit de faucher et de ratisser, par exemple.
Et les enfants sont les bienvenus sur ce type de chantier ?
Oui, tout à fait. Les enfants sont les bienvenus aussi, accompagnés de leurs parents, bien sûr, quand même. Mais il y a différentes activités qui peuvent aussi être accessibles aux enfants. Et puis, c'est toujours bien pour les enfants de pouvoir profiter d'être sur un superbe espace naturel et de pouvoir observer la faune et la flore qui y sont.
Le prochain chantier nature participatif est prévu le 4 mai. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors, il s'agit d'un chantier nature participatif au Haut-Lycel, à Rosaine-Villers, donc dans le Bas-Rhin. Et il s'agit là d'entretenir une station botanique. Donc, c'est un site sur lequel nous avons une flore patrimoniale assez importante, notamment le rosier de France et l'anémone pulsatile. Donc là, c'est un peu comme je l'ai expliqué, justement, il s'agit d'entretenir ces pelouses pour permettre le maintien de ces fleurs, qui sont importantes parce que ce sont des flores, des espèces patrimoniales, et aussi parce qu'elles ont des papillons qui ont absolument besoin d'elles pour pouvoir exister, puisque certains papillons ne se nourrissent pas de n'importe quelle plante, mais ont des goûts assez spécifiques et ont besoin d'une fleur en particulier pour pouvoir exister.
Vous parlez de papillons, je crois qu'il s'agit d'un papillon de nuit qui est assez rare, qui s'appelle l'orisme des pulsatiles. C'est une espèce protégée ?
Oui, c'est une espèce protégée qui est classée en danger sur la liste rouge d'Alsace et qui est donc assez rare en France, mais encore plus en Alsace.
Votre association, est-ce qu'elle continue à acheter des terrains pour les protéger ?
Oui, c'est d'autant plus important en Alsace qu'il y a une densité de population très forte et donc une grosse pression sur les milieux naturels. Donc nous avons toute une équipe à la fois de bénévoles et de salariés qui font ce qu'on appelle une veille foncière, c'est-à-dire qui essaient de repérer des espaces que l'on pourrait acheter ou sur lesquels on pourrait signer un bail pour pouvoir les préserver sur la durée.
Il y a une grande diversité hein, des terrains que vous possédez, aussi bien des forêts que des zones humides, par exemple.
Oui, tout à fait. On protège différents types de milieux. Donc, nous avons lancé, il n'y a pas très longtemps, une souscription forêt, puisqu'il y a un enjeu important, comme je l'ai dit, sur les forêts, notamment les forêts que l'on puisse laisser en libre évolution. Mais sinon, nous avons aussi des zones humides, des vergers, qui sont importants parce qu'il y a un côté patrimonial, mais aussi parce qu'ils abritent différents types d'espèces, notamment des chouettes. Puis nous avons des pelouses sèches et des prairies humides qui sont typiques en Alsace, dans le Ried.
Et donc, le conservatoire a besoin aussi de soutien financier et pas seulement de bras, de bénévoles pour mener à bien ses actions.
Oui, tout à fait. Alors, le soutien financier, il peut être entre guillemets symbolique par l'adhésion. Et là, c'est pas vraiment le montant qui importe, mais c'est la légitimité que nous donnent nos adhérents, puisque adhérer, cela signifie qu'ils nous soutiennent et qu'ils soutiennent nos actions. Et puis, il y a aussi une aide financière, là, pour le coup, à travers les souscriptions. Donc, les souscriptions, on propose aux gens d'acheter symboliquement une part de milieu naturel. Ils peuvent choisir le milieu naturel de leur choix sur notre site. Et donc, l'argent qu'ils donneront à travers cette souscription sera utilisé uniquement pour l'achat de terrain dans ce milieu naturel.
Toutes les infos sur les chantiers nature et sur le reste à retrouver sur le site du Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace. Et on trouvera un lien, bien sûr, à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Luna Guélab.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Maître Lucas, pourquoi la bouteille ne coule pas dans la bassine ? Eh bien, à cause de l'air dans la bouteille. De l'air ? Ça coule pas l'air ? Si tu remplaces l'air dans la bouteille par de l'eau, la bouteille va couler. Je vais t'expliquer.
Gratuite et sans publicité pour aider les élèves du CP au CM2. C'est le principe de Maître Lucas, une plateforme qui est née en Alsace, à Colmar, et le succès est assez impressionnant. Le maître en question, Lucas Schildknecht, est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
On reconnaît votre voix, c'est vous, Maître Lucas. Vous faites aussi la voix de l'enfant, d'ailleurs.
Eh oui, exactement. Bonjour tout le monde.
Alors, vous êtes formateur d'enseignants basé au Luxembourg. Comment est née, dites-moi, l'idée de cet instit virtuel sur YouTube au tout départ ?
Eh bien, c'est une bonne question. J'ai commencé à créer des vidéos lorsque j'étais à Colmar. Et ensuite, lorsque j'ai déménagé aux États-Unis, je travaillais à New York dans une école. où une conseillère pédagogique m'avait proposé de faire de la classe inversée. Donc, il s'agit de montrer des vidéos à la maison et ensuite de pouvoir échanger, débattre, faire du travail de groupe en classe. Et n'ayant pas trouvé des vidéos qui me correspondaient et ce dont j'avais besoin, je me suis dit pourquoi je ne commencerais pas à créer des vidéos moi-même. J'ai donc acheté un petit micro à 20€, j'ai fait un montage, j'ai créé ma première vidéo. Et les élèves ont tout de suite accroché, ainsi que les parents. Et lors du Covid, donc du premier confinement en 2020, la chaîne a vraiment pris une autre dimension avec des milliers de visites par jour. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là. Et je me suis un peu plus professionnalisé. J'ai acheté du matériel. J'ai créé des personnages qui sont récurrents maintenant dans les vidéos. Et voilà, maintenant, ça fonctionne très bien. Je produis plusieurs vidéos par semaine. Et avec des millions de vues sur la chaîne.
Ce sont des vidéos en dessin d'animation. Hein. Est-ce que c'est vous qui dessinez ?
Alors, je n'ai pas dessiné. J'ai fait appel à un graphiste pour dessiner les personnages. Et ensuite, j'utilise un logiciel pour faire mouvoir les personnages. En fait, tout simplement, il y a un suivi avec un capteur qui me permet de faire déplacer tous les personnages.
Est-ce que le prof vous ressemble ?
Oui, ben, il a été dessiné à partir de ma photo, en fait.
Vous proposez des vidéos éducatives qui sont très ludiques. Les élèves ont aussi accès à des jeux pédagogiques, à des cartes mentales, ainsi qu'à des exercices pour approfondir leurs connaissances. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes de ces vidéos ?
Alors pour les thèmes, je pars d'abord bien entendu des programmes scolaires. Donc j'épluche les programmes, j'épluche les documents d'accompagnement, éventuellement des manuels, et je construis un script de la vidéo à partir de ceci. À côté de ça, je peux aussi répondre à certaines situations dans la société. Donc, lorsqu'il y a des sujets d'actualité, je pense notamment actuellement aux Jeux Olympiques, eh bien, à ce moment-là, j'essaie de rester collé à l'actualité et de créer des vidéos qui ne sont pas forcément liées au programme ou alors de loin, mais qui correspondent à l'actualité pour répondre aussi à des interrogations que les enfants se posent. Donc, j'essaie d'être là aussi pour répondre à leurs questions.
Je signale aussi une vidéo importante sur le consentement qui est intitulée « Ton corps t'appartient ».
Oui, tout à fait. Là aussi, lié à l'enseignement moral et civique dans les programmes, je fais beaucoup de vidéos sur ces questions-là, donc l'égalité fille-garçon et tout ce qui concerne l'enseignement civique et moral.
Quelles sont vos relations avec votre public, Maître Lucas ? Vous avez des fans, disons-le.
Eh bien, au regard du nombre de commentaires qu'on reçoit tous les jours, je dirais que oui. Et ça se concrétise parce qu'au-delà des messages, je vais de temps en temps dans les classes, de moins en moins puisque je suis au Luxembourg, donc je vais moins dans les classes françaises. Mais néanmoins, quand j'y vais, c'est là que je me rends compte de la dimension que ça prend. J'étais dans une école la semaine dernière. Lorsque je leur ai dit que j'étais Maître Lucas, « Ah non, mais j'y crois pas, mais mon prof me met tout le temps des vidéos de toi, c'est trop bien !» Donc, parfois, j'ai des câlins, j'ai même des élèves qui pleurent, etc. Donc, c'est dans ces moments-là que je me dis « Waouh !» Ça a un réel impact, en fait, sur le quotidien des élèves.
Oui, parce que les vidéos sont utilisées par les enseignants et enseignantes, ainsi que par les parents. C'est vraiment un double usage.
Oui, tout à fait. C'était aussi ça l'objectif, c'était de pouvoir répondre à un besoin des enseignants et des parents. Lorsqu'il y avait le premier confinement, il y avait beaucoup de mails dans ce sens-là, le fait de pouvoir accompagner mieux à la maison et également avoir un outil en classe, soit pour faire de la classe inversée, soit pour faire du renforcement, soit pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Et donc là, l'idée, c'était de répondre à tout ce panel-là et ça a pris des dimensions où... on a ces élèves-là à besoins spécifiques, dans les familles, etc., mais dans le monde entier, dans toute la francophonie finalement, puisque il n'y a que 50% de notre trafic qui vient de France. Le reste, c'est de tous les pays francophones. On a également un partenariat avec 17 écoles en Afrique, 17 pays en Afrique, pardon, avec des milliers d'écoles pour rendre disponibles les vidéos dans les endroits où il n'y a pas de connexion Internet. Donc ça aussi, là, il y a un impact très fort. Et on a eu, encore il y a 2 semaines, des comptes de toute une classe d'une école française à Riyad. Voilà, tous les élèves ont écrit des comptes, ils me les ont envoyés. On a eu une vidéo également d'élèves de CP à Shanghai. Donc voilà, ça a pris une dimension internationale.
Bon, évidemment, ça pose la question des écrans, Maître Lucas. Dans nombre de familles, l'enjeu, c'est plutôt de diminuer l'accès aux écrans.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le temps d'écran pour montrer l'importance de diminuer le temps d'écran et d'avoir du temps d'écran de qualité. Donc, il faut savoir qu'un enfant de 7 à 10 ans, 7 à 11 ans, passe 1000 heures par an sur les écrans. Mais j'essaye tout du moins de remplacer un temps d'écran récréatif en un temps d'écran éducatif.
Bon, tout ça, c'est un boulot bénévole pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Oui, effectivement. Alors, on essaye de faire en sorte de ne pas mettre de publicité, de ne pas mettre de compte payant. Donc, c'est gratuit, offert pour tous. Moi, ce que ça m'apporte, eh bien, évidemment, de la reconnaissance de tous ces élèves que j'aide. Mais j'essaye de faire ça, j'essaye un maximum de me détacher de cette reconnaissance-là pour le faire de manière désintéressée. Je pense que c'est important de diffuser un maximum de savoir dans le monde et puis de créer de l'intelligence non artificielle pour le coup.
Quelle est votre vidéo coup de cœur parmi toutes celles que vous avez produites et mises en ligne ?
Ouais, c'est une bonne question. Il y en a tellement. Mais je pense, véritablement, les vidéos d'enseignement moral et civique qui me tiennent à cœur. Alors, actuellement, là, j'ai fait tout un dossier sur l'empathie avec l'expression des sentiments, le respect, l'égalité, la confiance en soi. Donc, tout ça, ce sont des thématiques qui me semblent importantes pour la vie des élèves et pour le bien-être des élèves.
Voilà, ça s'appelle Maître Lucas, disponible sur maîtreluca.fr, tout simplement. Et je vous remercie beaucoup, Lucas Schilnecht, d'avoir participé à Carnet de Campagne.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
À bientôt.
Midi 46, le mercredi, ce sont les enfants qui répondent aux questions. Voici le jeu des 1000 euros sur France Inter, Nicolas Stoufflet.
Chers amis, bonjour. Un lieu à Moche, ici, dans le département du Haut-Rhin, est inscrit depuis peu, finalement, au patrimoine mondial par l'UNESCO. Quel est ce lieu ? Il s'agit d'un cimetière. C'est un cimetière qui est une nécropole nationale où sont enterrés plus de 500 poilus, les soldats de la Grande Guerre, essentiellement des soldats tombés en 1915 pendant la bataille du Vieil Armand, du nom d'un sommet vosgien, appelé aussi Hartmann-Willerkopf. Et au sommet d'une colline, une statue de la Vierge construite entre les deux guerres. Il y a ici 1642 habitants dans ce village au pied des Vosges, le village de Moche qui se trouve à une bonne trentaine de kilomètres à l'ouest de Mulhouse. 1642 habitants, il y a eu une population plus importante autrefois. Malgré cela, la commune a conservé son dynamisme, commerce, pôle médical, association, une école publique, 5 classes, une école associative et une crèche bilingue ainsi qu'une structure périscolaire. Nous sommes très heureux d'être ici et justement pour le spécial jeune avec aujourd'hui mesdames messieurs Tom Poyer et Marceau Cousin Muller. Bonjour Tom.
Bonjour.
Tu as 11 ans ?
Oui.
En quelle classe es-tu donc ?
En CM2.
Où es-tu en classe ?
À l'école Les Sources de Burnop-le-Haut.
Tu écoutes le jeu des 1000 euros ?
Souvent le replay des jeudis, vu que le jeudi je suis pas à la cantine, avec mon papy je l'écoute souvent.
Ah oui, c'est avec ton papy. Ouais. Décidément, les grands-parents souvent transmettent cette habitude d'écouter le jeu des 1000 euros. C'est une très 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 belle idée. Tom, tu t'intéresses à quelque chose de particulier en dehors bien sûr de tes études ?
La Formule 1.
Ah, tu aimes la Formule 1 ?
Ouais, surtout mon pilote préféré qui est Max Verstappen.
Ouais. Comment suis-tu la Formule 1 ?
Des fois, je regarde les résultats des courses sur Google. Ouais. Parce que vu que moi, j'ai pas Canal Plus Sport pour regarder. Je sais qu'avant, c'était sur TF1, mais maintenant, ça a changé.
Et oui, donc il faut être abonné.
Ouais, je sais. Et du coup, vu qu'à différentes courses, on marque différents points, sur Google, je regarde les scores tous les mercredis.
Mais tu regardes des séries aussi
Formule 1, pilote à leur destin. Là, il y a leur saison 6 qui est sortie.
On peut la voir facilement, cette saison ?
Oui, c'est sur Netflix.
Ah oui, faut être abonné, là aussi. Ah oui. Non, c'est terrible.
La vie n'est pas gratuite.
La formule du jour, qui est une forme de philosophie, je dirais. La vie n'est pas gratuite. Et d'ailleurs, ta participation au jeu des 1000 euros non plus n'est pas gratuite parce que tu as envie de gagner le Super Banco.
Oui, surtout.
Avec Marceau Cousin Muller. Bonjour Marceau.
Bonjour Nicolas.
Alors toi, tu as 16 ans Marceau.
Tout à fait.
C'est-à-dire que tu es en première ?
Première générale au lycée Schurer Kestner de Tannes.
Et qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? À titre personnel, évidemment.
À titre personnel.
Pas la Formule 1 ?
Non. Je suis de loin la Formule 1, mais... Je m'intéresse plutôt en tant que sport au foot, c'est un sport que je suis beaucoup. Je m'intéresse à la musique et en général je suis assez curieux, donc je suis assez ouvert sur beaucoup de sujets et je m'intéresse relativement à beaucoup de choses.
Voilà. Et quel musicien par exemple, quel genre, quel groupe, il y a quelque chose à nous dire peut-être ?
Il y a un artiste de la vallée de Masevaux, un jeune jazzy, il s'appelle, il faut aller voir, c'est super.
On peut voir ses vidéos, sa musique.
On peut voir sa musique sur YouTube, je pense.
Quel est le genre?
C'est du genre, c'est du rap, mais tranquille. Et c'est
ah voilà, je vois.
C'est une nouvelle génération. Donc
Marceau,
c'est...
il rassure les auditeurs, notamment les grands-parents, puisque les grands-parents nous écoutent, et les parents aussi. C'est du rap, mais tranquille. D'accord.
Du rap tranquille.
D'accord.
Jaski.
Jaski.
J-A-S-K-I.
On ira voir ça, je suis sûr. Marceau Cousin Muller, Tom Poyer, depuis Mosh, dans le département du Haut-Rhin. On est haut-rhinois ici et alsacien, évidemment. Première question bleue de Jean-Paul Corlin à Fontaine en Isère. Quel est le nom donné à la larve des amphibiens? Grenouille, crapaud, salamandre.
Le tétard.
C'est le tétard, le nom de la larve de ces batraciens, de ces amphibiens. Le tétard. Question bleue aussi, rédigée par Marianne Pouget à Colomiers, près de Toulouse. La soufrière domine un territoire d'outre-mer, un département français d'outre-mer. Quel est ce département? La soufrière. Volcan en activité.
Je vais essayer avec les outre-mer que je connais, la Martinique.
Ce n'est pas la Martinique.
La Guadeloupe.
C'est la Guadeloupe, la soufrière. Bien joué. Question bleue de Pascal Rousseau à Poitiers. Quelle autre expression peut-on employer pour dire 1100 spectateurs? 1100. Tom.
1100 spectateurs.
1100 spectateurs, c'est la même chose. Les deux sont possibles. 1100 ou 1100. Maintenant, une question blanche de Gabriel Louchard, qui habite Bénac, en Haute-Vienne. Ça va, Tom?
Ça va.
Ça va, okay. Oui, oui. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Et Marceau?
Très bien, tout va très bien.
Très
pour
bien.
L'instant.
Alors, Gabriel vous demande, dans quelle ville siège le pouvoir politique de la Pologne? Bon, autrement dit, quel est le nom de la capitale de la Pologne? Tu peux répondre, Marceau, parce que...
C'est Varsovie.
C'est peut-être plus facile pour toi, effectivement. C'est Varsovie, la capitale de la Pologne, et c'est là que se trouve donc le pouvoir politique de ce pays européen. Question blanche aussi, de Maryse Maté à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Ah, Tom, c'est une question pour toi.
La Formule 1.
Que signifie l'expression « appuyer sur le champignon »
Appuyer sur l'accélérateur. Pour aller vite.
Appuyer sur la pédale d'accélérateur, l'expression appuyer sur le champignon. Pourquoi? Parce qu'au début de l'automobile, la pédale d'accélérateur ressemblait à un cep, puis un disque porté par une tige à la manière d'une girole. Voilà pourquoi on a gardé l'expression appuyer sur le champignon, que tu connaissais, hein, donc aucun problème, c'est une expression qu'on emploie encore, la preuve, Tom. Tom et Marceau, je vous pose la question rouge de Fernand Malnoux de Saint-Arnoux en Yvelines, département 78. Comment appelle-t-on un lieu généralement en surplomb et servant de refuge et de lieu de rencontre à l'époque romaine? Donc c'est un nom latin, français d'origine latine, lieu fortifié établi sur une hauteur.
Une agora.
Ce n'est pas une agora. Sur une hauteur. Tom, tu apprends un petit peu l'histoire gallo-romaine?
Là, pour l'instant, on est en train de lire le feuilleton d'Hermès.
Oui.
Mais je ne sais pas trop quoi.
Sommet.
On peut répéter la question?
Oui, on peut, oui. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, puisqu'on arrive dans la deuxième partie du jeu. C'est le moment où je vous repose cette question rouge. Question toujours au nom de Fernand Malnoux. Comment appelle-t-on le lieu généralement en hauteur, en surplomb, servant de refuge et de lieu de rencontre à l'époque romaine, lieu fortifié établi sur une hauteur? Mot latin et français, mais qui sonne latin très fortement. Attention, une réponse, on arrive au terme des 15 secondes déjà. Aïe, 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 aïe. On est au bout des 15 secondes et je vous donne la réponse, c'est le mot oppidum.
Oppidum, j'avais pas.
Ouais, vous ne l'aviez
moi
pas.
Moi non plus, je l'avais pas.
Pas de regret alors. Oppidum, question qui permet à Fernand Malnoux, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, de gagner 45 euros. Tom Poyer, Marceau Cousin Muller, voulez-vous vous arrêter ou en passant par le repêchage, voudrez-vous tenter le... Le spécial jeune du jeu des 1000 euros, avec Banco ou sans Banco aujourd'hui?
Avec Banco.
Avec Banco, d'accord, peut-être. Pour le repêchage, j'ai pour vous aujourd'hui une œuvre musicale à reconnaître, extrait. Comment s'appelle ce morceau ? S'appelle-t-il la valse, le boléro ou la polka ?
Je dis le boléro. Le boléro.
Le boléro de Maurice Ravel. Exactement, bravo. Il y a d'ailleurs eu un film sous le titre Boléro il y a quelques temps, sorti en mars, film réalisé par Anne Fontaine. Question Banco.
Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet.
Question à 500 euros, donc le banco. Quand vous écoutez l'émission, est-ce que vous répondez souvent chez vous au banco, Tom, par exemple?
Je dirais...
Une fois sur deux?
Une fois sur trois.
Une fois sur trois, d'accord. Et toi, Marceau, le spécial jeune?
J'essaye.
Oui?
Des fois ça passe, des fois non.
C'est
mais
ça.
J'essaye, au moins.
Idem.
J'espère que ça va passer aujourd'hui. Question de Camille Chauvois à Montaigu-sur-Save, en Haute-Garonne. Dans quelle partie du corps trouve-t-on un étrier ?
Dans l'oreille. Non.
Vous avez répondu très très vite. Marceau, tu as répondu vite. Est-ce que Tom est d'accord avec cette réponse ?
J'ai pas eu le temps de dire.
C'est ça ? C'est ce que j'avais constaté.
Mais...
Tu moi... valides ? Tu valides ?
Moi, écoute, je vais lui faire confiance, alors oui.
Bonne réponse, tu as raison de lui faire confiance. L'étrier, c'est l'un des osselets de l'oreille moyenne, avec le marteau et l'enclume. Banco, c'est bon. Super Banco, peut-être. Jusque-là, vous avez fait un beau parcours. Voulez-vous continuer, tout remettre en jeu, tout remettre en cause, avec les risques qui vont avec, avec le danger inhérent à votre choix?
On arrête.
Tom ne veut pas, donc on va arrêter ici.
Il s'arrête au banco. C'est la sagesse qui l'emporte. 500 euros pour Tom Poyet et Marceau Cousin Muller.
On a voulu être prudents.
C'était ça, la prudence. C'était votre première participation.
Parce que le plus souvent que moi j'écoute le jeu des 1000 euros des enfants, ils perdent beaucoup de fois. J'aimerais pas avoir un peu cette déception.
Tu as très bien résumé ton état d'esprit. On valide donc 500 euros pour le banco, le Larousse, le petit Larousse illustré 2024, ainsi qu'une bande dessinée, ou plutôt un roman graphique dans l'univers Donjons et Dragons, Dungeon Club, également une publication Larousse. Merci de nous suivre, bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Et voici les rendez-vous pour participer à votre tour au jeu des 1000 euros. Ça se passe demain dans l'Aisne à Ferrand-Tardenois, à la salle des fêtes, 17h et 18h30. Vendredi à Auville dans l'Eure, aux mêmes horaires. Et samedi à Bernières-sur-Mer dans le Calvados, à 14h30 puis à 16h.
On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Marie-Vonne Lagaronne, éleveuse dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi l'élevage bovin herbager est-il plus durable ?
Eh bien, il l'est parce que l'alimentation que l'on donne à nos bovins est composée en moyenne de 84% de produits issus de nos fermes.
D'accord. Et de quels produits s'agit-il exactement ?
Bon, bien sûr de l'herbe hein, en premier, mais aussi de céréales, de blé, d'orge, de maïs, de tournesol.
Ouais.
L'avantage, ce sont des productions en grande partie qui sont non consommés par l'homme.
Et qu'en est-il de la fertilisation des sols ? Autrement dit, comment nourrissez-vous vos terres ?
Sur la partie culture, 35% des sols de notre filière sont fertilisés avec des lisiers, des fumiers. Ce sont des matières naturelles.
Très bien.
Et ça nous permet de réduire l'utilisation des engrais de synthèse et de limiter le transport des fertilisants.
Merci beaucoup, Marie-Vonne.
on en parle.
Consultez nos sources d'informations sur interbev.fr, rubrique enjeux sociétaux. Rapport Interbev RSO 2021-2022 et étudie dès 2021.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL.